des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, un cadeau, une émission avec l'un des plus grands écrivains anglais contemporains, l'éternel bad boy de la littérature britannique, ou comme l'avait dit le New York Times, le maître du nouveau désagréable. Il est pourtant très agréable, il est avec nous pendant une heure et on est très très heureux d'accueillir dans le Temps des écrivains l'auteur de Monet, l'auteur de London Fields, de The Information, le satiriste des années Thatcher, l'auteur polémique de La Zone d'intérêt, le Mick Jagger de la littérature, l'admirateur de Nabokov, le mordant, le corrosif, l'éloquent, Martin Amis. Bonjour Martin Amis.
Bonjour.
J'en profite pour saluer Xavier Combes qui sera votre interprète aujourd'hui. Bonjour Xavier Combes.
Bonjour.
Alors Martin Amis, vous ne présentez pas, ça c'est une exception dans le Temps des écrivains, vous ne présentez pas de nouveaux livres en France. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite dans notre pays ?
Je viens pour une petite manifestation à la Bibliothèque américaine de Paris. Noble institution créée en 1919 et qui va donc fêter son 100e anniversaire.
D'accord, très bien. Et donc vous allez parler...
Oui, parler, oui. On peut dire ça. On m'a invité à parler une vingtaine de minutes.
Where I will talk about something completely incidental.
Et je vais parler de quelque chose qui est peut-être hors propos.
Three areas that fiction
les trois
cannot enter.
Domaines où la fiction est interdite
and
d'accès.
Quite large and familiar areas.
Et ce sont des domaines aussi importants que familiers.
Fiction can't do dreams.
La fiction ne peut pas traiter des rêves.
It can't do sex.
Elle ne peut pas traiter de
sexe.
It's a
controversial thing to say,
c'est controversé de dire ça de ma part. Mais
many writers have attempted
de nombreux écrivains ont tenté de tenir des propos, de parler de sexualité.
Without success.
Mais je dois dire qu'ils n'ont pas été couronnés de succès.
And I think there are clear historical reasons.
À mon
for
sens,
that.
Il y a des raisons historiques qui expliquent cela.
And the third area
et le troisième domaine,
is religion.
C'est la religion.
On ne peut pas parler de religion non plus.
Well, what those dreams, sex, and
donc,
religion,
le rêve,
what they have in common,
la sexualité et la religion ont un point commun.
Is a decisive deficit
c'est
in universality.
Un manque d'universalité.
They're too personal, they're too
private. On est dans le domaine de l'intime.
They're too inward.
On est dans le domaine de l'introspection, dans les trois cas.
Furthermore, I think that the novel
qui plus est,
is a,
je
is
pense
a social
que
form.
Le roman, c'est une forme d'expression éminemment
and some of the same sociale. Rules apply to social life and to fictional
la vie,
life.
La vie sociale et la vie de fiction sont régis par bon nombre de règles communes.
Can only talk about, or wants to talk about his dreams,
peu de gens sont enclins à parler de rêves, de sexualité ou de religion.
Insortable.
Très volontiers. Donc c'est insortable. C'est
mais si je reviens à la question effectivement de la sexualité, alors vous dites ça, on peut pas écrire sur la sexualité quand c'est vous qui le dites, alors que le sexe est très présent dans votre œuvre, Martin Amis. Mais si je parle par exemple de Henry Miller qui a énormément écrit sur la sexualité, sur l'acte sexuel, je comprends pas très bien pourquoi vous dites qu'on ne peut pas parler de sexe en littérature.
You can do sex if it's a failure.
On peut parler de sexualité à condition que ce soit par le prisme de l'échec.
You can do the fiasco.
On peut parler du fiasco.
Which Stendhal, in his
exactly.
Very nice
Stendhal,
book, Love,
c'est y faire.
Says it's a tragedy.
Bon, évidemment, c'est une tragédie, on l'a bien compris.
That's certainly how it feels at the time.
Donc c'était effectivement le ressenti, notamment à l'époque. Mais pour un romancier, c'est assez comique en réalité.
Pathetic and ridiculous.
C'est pitoyable, ridicule.
Very ripe for fiction.
Et donc c'est un sujet
what we can't do
qui est trop prégnant pour être abordé par la fiction.
Is capture that transcendent element that we all know is there.
Nous savons pourtant que dans la sexualité, il y a un élément transcendant.
But that's quite inaccessible to,
mais
to prose as it now
c'est inaccessible pour la prose, dans sa forme actuelle, j'entends.
I mean, let's not forget that for, I'm talking about English fiction or British fiction.
Ce dont je vous parle, c'est la fiction anglaise, peut-être britannique, 1750. Qui a commencé en 1750.
And then for two centuries, it was illegal.
Et à cette époque-là, il était même illégal de traiter de sexualité.
Those two centuries of inhibition,
deux siècles se sont écoulés, il y a eu de l'inhibition, de la furtivité, de l'embarras, une gêne.
Has made it impossible
et
to write about
désormais, il est impossible d'écrire à propos de la sexualité
in a mature and positive way.
De manière mature et positive.
People snigger about sex.
Alors, on peut parler de façon indirecte avec en faisant des clins d'œil.
Something you can't speak about.
On ne peut pas parler de sexualité.
But it is, it's a great loss to fiction because
mais c'est un...
It's a great lacuna.
C'est une lacune pour la fiction du reste. C'est un grand manque.
It's a subject that is rich and grand.
Car c'est un sujet éminemment
and
riche.
Couldn't be more vital.
D'une certaine grandeur et qui est vital, il faut bien le reconnaître, évidemment, même sur le plan littéral. La sexualité, c'est ce qui peuple le monde, après tout.
Yet we can't do
et pourtant, la fiction ne peut l'aborder.
Vous allez publier un livre bientôt.
I've been working for several years on
ça fait plusieurs années que je travaille sur un roman autobiographique assez conséquent.
I find it very difficult to write about myself.
Il m'est très difficile d'écrire à propos de moi-même.
And that huge new genre called life writing.
Et cette auto-fiction, genre immense, plein essor.
Which began only in the last century.
Genre qui n'a vu le jour qu'au XXe siècle.
I mean, Dickens didn't break off in the middle of a novel and tell you what he'd done yesterday.
Au milieu d'un roman, Dickens n'allait pas vous raconter ce qu'il avait fait la veille.
Well, you write about real people.
On parle de véritables personnes.
And you, D.H. Lawrence, who was a
D.H. Lawrence,
innovator in both
qui était innovant dans l'écriture à propos de la sexualité, d'ailleurs pour y revenir, et puis aussi pour la description de la vie avec un élément d'autobiographie.
And he was in constant trouble with
et
the
bien, D.H. Lawrence a eu les pires ennuis avec la police.
Not just for obscenity, but also for libel.
Non seulement parce qu'on l'accusait d'obscénité, mais aussi parce qu'on l'accusait de diffamation.
But it's a very, I think, very problematic genre, life writing.
Mais donc cette forme d'écriture, ce genre, l'autofiction, l'autobiographie, avec des éléments de réalité, avec des vrais personnages, c'est un genre assez difficile.
Very inhibiting. I do write about
ça inhibe
other writers in this novel.
L'écrivain. Je parle d'autres écrivains dans ce roman autobiographique.
Donc c'est un roman autobiographique, hein, ce prochain livre. Ouais. Il est terminé, là, ça y est, il est prêt à sortir.
Oui, je l'ai terminé, je suis en relecture.
Et quel est le titre
révision.
Inside Story.
Ah, très bien. Est-ce que vous savez, Martin Amis, pourquoi vous avez encore envie d'écrire ?
Yes, very much. I mean, I would.
Ah oui, je sais, oui.
I would not know what to do all day.
Je ne saurais pas quoi faire de mes journées si je n'écrivais pas.
I think writers should
et du reste,
stop writing.
Je pense que les écrivains doivent savoir s'arrêter à un certain moment.
No writer, it's very rare for a writer to go on.
Il est très rare qu'un écrivain
vital and creative beyond the age
continue à être créatif et en pleine vitalité au-delà de 70 ans.
They all become second rate.
Tous autant qu'ils sont, ils sont relégués à une division inférieure en quelque sorte.
Ça vous effraie?
Oh yeah, very much.
Oh oui.
I live in hourly dread.
Il ne se passe pas une heure où je n'ai cette crainte.
Parce qu'il vous reste combien de temps avant 70 ans, Martin Amis?
Two or three months.
Deux ou trois mois.
Voilà. Any minute.
Allez, je regarde ma montre là.
Mais vous ne songez pas pour autant à arrêter l'écriture?
Non, mais je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Après cet ouvrage dont nous venons de parler, j'ai un autre projet. Mais je regarde les écrivains autour de moi, il y en a qui font le roman de trop, si vous voulez.
And in America,
et aux États-Unis,
both John Updike and Philip Roth.
John Updike et Philip Roth
should have stopped.
Auraient dû s'arrêter.
C'est quoi?
quelques années avant.
C'était quoi le roman de trop de Philip Roth et de John Updike?
I think the last Philip Roth shouldn't have written anything.
Oh, Philip Roth n'aurait rien dû écrire à mon sens.
The last 10 years.
Pendant les 10 dernières années.
Le dernier bon livre de Philip Roth, c'était lequel, selon vous?
Well, the novel where I thought he should have stopped.
Le roman où il aurait dû s'arrêter.
Is The Dying Animal, which was
l'animal mourant.
Which was 15 years ago.
Ça, c'était il y a 15 ans, une quinzaine d'années peut-être.
It's a sort of sluggishness that comes
une espèce de lenteur qui envahit les écrivains vieillissants.
And they repeat the same themes.
Ils répètent les mêmes thèmes.
Much less interesting.
De façon beaucoup moins intéressante qu'avant.
Alors, quand est-ce que vous saurez que vous devez arrêter? Est-ce qu'un écrivain peut se dire, là je me répète, parce qu'au fond un écrivain, et vous aussi, vous n'y échappez pas, tout au long de votre carrière, vous avez rebattu les mêmes thèmes, et c'est ce qui fait de vous aussi l'écrivain Martin Amis. On aime aussi les écrivains, et ils deviennent vraiment écrivains dans la mesure où ils ont leurs propres thèmes, où ils travaillent ces thèmes à leur façon.
It's not a question of following the same themes.
Il ne s'agit pas tant de suivre les mêmes thèmes.
Writing is all about energy.
Que d'énergie. L'écriture, c'est une question d'énergie.
Novelist John Banville said,
John Banville, he said, romancier irlandais, a dit
energy,
l'écriture.
Energy. And if your sentences no longer contain energy,
si dans les phrases que vous couchez sur le papier, il n'y a plus cette énergie,
but it's not clear to me that I will know
ça ne va pas.
Myself.
Mais je ne le saurai peut-être pas moi-même.
Maybe,
ce n'est peut-être pas moi qui en prendrai conscience. Peut-être qu'un jour, votre épouse vous tape gentiment sur l'épaule et vous dit « Chérie, c'est peut-être le moment.
» Est-ce qu'un écrivain choisit ce qu'il écrit, ou est-ce que les romans s'imposent à lui sans qu'il les ait choisis?
Well, the best feeling is that the subject chose you.
Le meilleur sentiment que l'on puisse avoir, c'est quand le sujet vous choisit, vous, pour le traiter.
You do decide to
Mais
write.
Il y a quand même une décision. Mm. C'est de façon délibérée que l'on écrit.
And if you come back to it,
et
if you do it, visit it again,
si l'on revient sur le même sujet, particulièrement s'il est difficile,
I wrote a book about
moi, j'ai écrit
the Holocaust,
un
a novel
livre,
about the
un roman sur l'Holocauste.
The Jewish Holocaust in 1991.
L'Holocauste juif. Donc ça, je l'ai écrit en 1991. Et plus récemment, je l'ai...
La zone d'intérêt, voilà.
Traité dans ce livre-là, oui.
Ça, c'était des sujets que vous n'aviez pas choisis?
Of course I did.
Si, yes. C'est moi qui ai choisi de traiter ce sujet. Mais...
I got the idea for it and it's not
pour le premier, l'idée m'est venue, mais ce n'est pas réaliste.
Way.
C'est réaliste, enfin si, c'est réaliste, mais de manière un peu étrange.
The first novel I wrote about the
le premier roman sur l'Holocauste, je l'ai écrit à l'envers, une chronologie inversée.
And if you do the Holocaust backwards
et
in time,
si l'on traite l'Holocauste avec une chronologie inversée,
it becomes a creative act.
Ça devient un acte de création.
You summon this race down from the clouds.
Convoque l'événement.
There they are.
Et voilà.
They're born in the gas chamber.
Personnages arrivent.
And you
ils sortent des nuages, donc de la mort. Ils arrivent dans les chambres à gaz, les camps, ils repartent en arrière, ils remontent l'histoire, ils deviennent forts, puis ils repartent chez eux. Donc dans les trains, hein, donc les trains de déportation, mais dans l'autre sens, puis ils repartent chez eux, et puis ils mènent une vie, ils connaissent l'amour, ils ont une existence humaine tout à fait normale. Donc le lecteur, lui, doit faire le sale boulot, parce que le lecteur est évidemment conscient de ce qui s'est véritablement passé. Mais La deuxième fois, quand j'ai retraité le sujet dans la zone d'intérêt, donc, là, c'était un roman de réalisme social. Mais pas dénué de satire. En Allemagne, le premier livre a eu un certain succès, il a plu.
But they were horrified in the second
Mais
book.
Le deuxième a provoqué un effroi.
The satirical element.
Et c'est la satire qui a provoqué cet effroi.
I say to them,
et je leur ai dit,
ah,
ça vous gêne pas d'avoir agi
disgusting,
de la sorte. Oui, c'est pas un problème pour vous d'admettre que s'il s'agissait là de quelque chose d'abominable. Mais, bizarrement, ce qui vous plaît pas, c'était ridicule. C'était une idée ridicule que de tuer tous ces juifs.
So I satirize it.
Donc j'ai apporté de la satire dans cet événement. Parce que les gens qui font le mal n'ont pas de problème à être critiqués pour leurs agissements, mais ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Ils ne supportent pas d'être ridiculisés.
Et ils deserve.
Alors qu'il mérite d'être ridiculisé.
Martin Amis, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il y en a peut-être finalement. Je rappelle que vous êtes l'un des plus grands écrivains anglais, né en 1949 au Pays de Galles. Vous êtes le fils de Kingsley Amis, lui-même écrivain, anobli par la reine en 1990 pour service rendu à la littérature. En préparant l'émission, je me suis dit, mais est-ce que ça va pas l'embêter qu'on lui rappelle sans arrêt que son père était un grand écrivain, même si lui est un immense écrivain. Est-ce que vous n'en avez pas marre qu'on vous parle à chaque fois de Kingsley Amis?
No, I never minded that.
Non, ça n'a jamais été un problème.
I respect him as a writer.
Je le respecte
much more than he respected
en tant
me.
Qu'écrivain, bien plus qu'il ne me respectait, moi, comme écrivain.
But that's natural. I
mean, tout cela est naturel.
You respect your elders,
on respecte ses aînés,
but you're very irritated
mais
by your juniors.
On est très irrité par les descendants, n'est-ce pas?
Vous pensez que ça l'a énervé, en fait, que vous deveniez écrivain?
No, obviously.
Ah oui, c'est une évidence. Oui.
Il n'a jamais lu vos livres?
No, he read three.
Si, il en a lu trois.
Seulement trois?
Yeah.
Oui.
But he respected my literary criticism.
Mais il respectait tout de même mes propos de critique littéraire.
De critique littéraire, oui, parce que vous avez été critique littéraire, même rédacteur en chef littéraire de l'hebdomadaire New Statesman. Je reviens juste là-dessus parce qu'il y a une phrase qui m'avait amusé de vous. Vous aviez dit un jour, le problème avec l'Angleterre, c'est que cette société est devenue si égalitaire que je suis devenu une sorte de Prince Charles de la littérature aux yeux des Anglais. C'est fini maintenant, on vous compare plus au Prince Charles de la littérature?
I'm not sure how often I was compared to Prince
Charles.
Oh, je sais
pas si c'est très fréquent. Est-ce que vous dites? Ça c'était en fait une idée à moi.
But they do think that it was a blood inheritance.
Tout le monde pense qu'il s'agit d'un héritage, une espèce de lignée de sang.
Tried to be a writer knows that it's all from you.
Tous les gens savent que lorsqu'on écrit, c'est pas du tout parce que papa ou maman était écrivain ou écrivaine, hein, ça vient de soi, évidemment.
It is Iago who says in Othello.
Dans Othello, le personnage de Iago dit, c'est en nous-mêmes que nous sommes ainsi et ainsi. C'est pas du tout une volonté céleste, ce n'est pas les étoiles. Tout doit venir de nous.
Alors, Martin Amis, vous êtes l'auteur de 12 romans, dont le dossier Rachel, qui a obtenu, vous aviez 25 ans, le prix Somerset Maugham. D'ailleurs, votre père l'avait eu aussi, ce prix. Vous êtes l'auteur de London Fields, dédié à votre père, qui n'a pas lu ce livre. Il n'a pas lu London Fields. Alors que vous lui aviez dédié.
That's right.
Oui, vous avez raison.
My mother stood over him
et
with a knife.
Ma mère l'a menacé d'un couteau.
Il vous a peut-être menti, peut-être qu'il a lu ce livre-là.
No, I'm sure he did.
Non, je suis certain qu'il ne l'a pas lu.
Qu'est-ce qui vous rend si sûr de ça?
Because that's how he was.
Parce que je le connaissais bien, il était comme ça.
He's very stubborn.
Très opiniâtre.
J'aimerais aussi citer dans vos livres The Information, l'information, qui était un tableau cinglant, sans pitié du monde littéraire londonien, vu à travers deux écrivains, l'un à succès, vaniteux, l'autre raté, mais fourbe. Je voudrais parler aussi du Chien jaune, où vous régliez vos comptes avec la presse People. On pourra encore citer des titres extrêmement savoureux, Lionel Hasbaugh, l'état de l'Angleterre, qui était une satire de l'Angleterre aussi et de son culte pour la célébrité, puisque c'était l'histoire d'un personnage des classes inférieures, sociales, qui gagnait à la loterie et qui était pris d'une sorte d'hystérie de célébrité. Vous avez publié deux recueils de nouvelles, 7 essais, dont un texte autobiographique, Expérience, ou le deuxième avion dans cette gamme des essais qui regroupait vos textes sur le 11 septembre et sur l'islamisme, un texte dont on parlera, qui vous a valu aussi quelques insultes. Polémique aussi pour la zone d'intérêt, paru chez Calman Levy en 2015, lauréat en France du prix du meilleur livre étranger. Une histoire d'amour, hein, vous le rappeliez, chez les bourreaux d'un camp de concentration. La dernière fois que vous avez publié en France, c'était La friction du temps. C'était un livre et même un festival de rosserie et d'intelligence qui regroupait vos textes parus dans la presse, dans Time, dans le New Yorker, dans le Guardian. Il y avait une préface faite spécialement pour les Français. Vous aviez livré le portrait du Français type que vous aviez appelé Jean-Jacques et vous le définissiez comme pervers, intellectuel et vivant dans l'illusion. Je vous cite Martin Amis. Jean-Jacques professerait un intérêt singulier pour le pervers. Il existe d'ailleurs un sous-genre littéraire composé de romans amoralistes et ils sont tous français. La France est le havre naturel des amoralistes. Par ordre chronologique, Céline, Sartre, Beckett, Genet, Camus, jusqu'à Michel Houellebecq. Personne ne saurait choisir d'ignorer chez les Gaulois leur fascination de la pourriture, leur goût de l'inexplicablement rebelle, leur confondante nostalgie de la boue. Quelque part dans l'âme de Jean-Jacques, rôde un quartier Pigalle. C'est assez bien envoyé. En quoi voyez-vous chez les Français cette nostalgie de la boue? Vous avez d'ailleurs dit que c'est pas un accident si Céline était français.
Yes, this is a nice anecdote.
Oui, une anecdote.
When the Vichy government was collapsing,
lors de la chute du régime de Vichy,
Hitler summoned them to Germany, where they lived in a castle.
Hitler les a convoqués à Sigmaringen, où ils vivaient dans un château.
They were all there. Pétain,
ils étaient tous là. Pétain, Laval, tous donc convoqués au château par Hitler. Et devinez, et donc, il y avait un médecin qui s'est occupé d'eux. Eh bien, il y avait un médecin là, et bien c'était Louis-Ferdinand Céline. Donc, écrivain, médecin.
Des
gens qui sont prétendument humains dans deux domaines différents. Donc, Rabelais, Tchekhov,
Bulgakov. Etc. It's a noble tradition.
Donc c'est une tradition quasi noble.
Pierre Laval was tended by Louis Ferdinand.
Céline, Louis Ferdinand Céline qui s'occupait de Pierre Laval.
The ultimate nihilist.
Voilà, le nihiliste par excellence, médecin donc Céline.
The essence is French literary history.
Donc voilà, moi je crois que c'est en fait l'essence même de la littérature française.
Mais pourquoi cette nostalgie de la boue, d'ailleurs qui vient d'un poème, hein, Le mariage d'Olympe en 1855, d'Émile Augier, qui parlait de la nostalgie de la boue. Pourquoi vous en faites une caractéristique, non seulement des écrivains français, mais des Français?
Well, it's a nostalgie de la boue is not... It's taken from the poem, but
oui, la nostalgie de la boue, c'est tiré de ce poème d'Émile Augier. Mais on comprend un petit peu ce qui préside à ce désir.
But it's often been said of the French.
Mais on dit souvent, à propos des Français, que l'amour de la pourriture, c'est l'apanage des Français. C'est à vous de m'expliquer pourquoi les Français sont comme ça, pourquoi vous êtes comme ça, vous.
Très bien, on en parlera tout à l'heure, Martin Amis. On va continuer avec vous. On a la chance de passer une heure à converser avec vous, Martin Amis, à parler de littérature, à parler de vos livres, à parler aussi des polémiques, puisque vous êtes l'un des écrivains qui a eu le plus à essuyer les polémiques à la suite de la parution de ces livres. J'aimerais savoir ce que vous en pensez aussi de tout ça. On va juste s'arrêter avec vous. Je vous ai demandé de venir avec un peu de musique. Vous avez choisi, premier titre musical, Oscar Peterson, Night Train. On l'écoute.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Oscar Peterson, Night Train, c'est le premier choix musical de Martin Amis, avec lequel nous avons la chance de passer cette heure dans le temps des écrivains. Pourquoi ce choix musical, Martin Amis? Évidemment, c'est un titre de vos livres, Night Train. C'était une tentative d'ailleurs de polar, hein, de roman noir. C'est pour ça que vous avez choisi cette musique?
I named the novel after the.
Eh bien, le roman porte le titre de ce morceau.
That is my most French novel, Night Train.
C'est mon roman le plus français.
It is a visit to noir.
Donc, j'explore le roman noir.
Great French speciality.
Tradition française, s'il en est.
Enfin, il y a eu d'Achille Hamet, Raymond Chandler. Ils sont pas français.
Sure, but I mean it.
Certes, mais le cœur du genre roman noir, c'est quand même français. Il y a un instant, nous parlions de la nostalgie de la boue. S'agit-il d'une réaction face aux années noires 1940-1944?
They're commemorating the D-Day landings. Mm.
Donc il y a eu récemment la célébration du jour J. Il n'y avait pas de soldats français le 6 juin 44 sur la plage de Normandie. Lorsque il y a eu la libération en 44 en France.
De Gaulle said, I mean, what I think I admire him very much.
De Gaulle, que j'admire beaucoup, a dit.
But he said his speech. Hôtel de Ville, he said.
Donc son discours à l'hôtel de Ville.
France liberated by the French.
La France est libérée par la France, par les armées, l'énergie de la France.
Not true.
Mais ce n'est pas vrai.
And he had to create a myth.
Et donc De Gaulle a dû créer.
Un mythe. Deep politician and a deep historian.
Et c'était un homme politique. Doublé d'un historien. Et il s'est rendu compte à quel point c'était nécessaire de dire cela.
Martin Amis, vous vivez toujours aux États-Unis, à Brooklyn. Pourquoi est-ce que vous avez quitté l'Angleterre? Alors que dans vos romans, vous avez tellement traité de l'Angleterre, alors que vous étiez à un poste d'observation absolument formidable pour parler de la société de votre pays. Pourquoi être parti? Pourquoi avoir quitté ce poste d'observation?
My wife is American.
Mon épouse est américaine.
She New Yorker, born and bred.
Elle est new-yorkaise. Elle est née à New York.
So there was that, and there were many.
New-yorkaise de souche, en quelque sorte, mais donc. C'est surtout des raisons familiales et personnelles qui m'ont poussé à aller aux États-Unis.
But subconsciously, I wanted to.
Mais inconsciemment.
Rejuvenation.
J'espérais connaître une nouvelle jeunesse.
The excitement of moving
aux États-Unis,
is
l'excitation de quitter son pays
it
est très vive.
All your daily actions,
elle signifie que
shaving,
le quotidien. Et là, je vous parle de se raser, le fait de faire du thé ou du café. Tout cela a lieu ailleurs. Ainsi, tout est nouveau.
Et
l'écriture vise cela, justement. L'effort de l'écriture, c'est de faire en sorte que les choses deviennent constamment nouvelles. En 2011, mon meilleur ami, Christopher Hitchens, était mourant. Il y a diverses raisons. Puis en 2016, l'Angleterre s'est autodétruite avec le Brexit. Et plus tard, toujours en 2016, c'est l'Amérique qui s'est autodétruite avec Trump. Puis un mois plus tard, ma maison a été, il y a eu un incendie le 31 décembre. Donc c'était une année annus horribilis 2016. Donc, moi, je me sens apatride, en quelque sorte.
C'est intéressant, cette définition. Est-ce qu'un écrivain, de toute façon, n'est pas, de fait, un apatride ? Il y a eu des écrivains, certes, nationalistes, mais est-ce qu'un bon écrivain, c'est pas d'abord un apatride ? Parce que c'est ça qui le rend libre, en fait.
Sure, absolument. You're a citizen of the world or a citizen of the imagination.
Oui, on est citoyen du monde, citoyen de l'imaginaire.
Many people do need a connection.
Mais nombreuses sont les personnes qui ont besoin d'une attache. Lorsque l'on quitte son pays,
the word is deracination.
Le mot que l'on emploie, c'est déracinement. On se déracine.
But I love England, I love America.
Mais moi, j'aime l'Angleterre, j'aime les États-Unis, mais il y a tant de choses qui vont mal dans les deux pays, d'ailleurs. Le seul pays que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'Uruguay, où nous avons passé 2 ou 3 ans.
Est-ce que vous sentez, Martin Aimis, vous qui vivez de l'autre côté de l'Atlantique, dans le Nouveau Monde, est-ce que vous vous sentez un écrivain européen, un écrivain de ce vieux monde qu'est l'Europe ? Est-ce que c'est une notion qui est importante pour vous ? Est-ce que vous sentez ça ?
C'était Donald Rumsfeld qui...
Donald Rumsfeld.
Who popularized old Europe. I think that's very insulting.
Parler de l'Europe comme étant la vieille Europe. Voilà une insulte.
I feel I'm a transatlantic writer.
Moi, je suis un écrivain, je me considère comme un écrivain transatlantique. Je pense que je l'ai toujours été.
I lived in England.
J'ai vécu en Angleterre, je fais partie de cette tradition-là.
But American prose, American fiction...
Mais la fiction américaine, c'est ça qui m'a animé. Le roman anglais, à mes débuts, était peu enclin à l'aventure ou au risque. Par aventure, j'entends pas l'expérimentation. Par aventure, j'entends le fait de... se projeter dans l'ensemble du monde.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ça ? Quels sont les écrivains américains que vous avez trouvés justement enclins à l'aventure ? Et à contrario, quels sont ces écrivains anglais que vous ne trouvez pas aventureux ? Parce qu'en même temps, en Angleterre, il y a eu une génération dont vous faites partie, les Jonathan Coe, Julian Barnes, Martin Amis, Ian McEwan... qui ont réenchanté quand même le roman européen, disons, anglais.
Yes, I'm talking...
Je ne sais plus si on peut dire européen.
In 1973,
en 1973, lorsque je me suis lancé,
every English novel was 225
tous les romans anglais faisaient 225 pages.
And it was about the ups and downs
traitaient
the middle class.
De la classe moyenne et les vicissitudes de la classe moyenne.
Careers, divorces.
Les carrières, les divorces.
But whereas the American
alors,
literary experience,
qu'au même moment, l'expérience littéraire aux États-Unis
was trying to encompass this huge,
visait à
this continent.
Mm. But which one?
À embrasser le continent.
Well, John Dos Passos,
lequel
USA.
John Dos Passos, par exemple.
He wrote a novel called USA.
Il a écrit un roman intitulé USA.
It's trying to...
Mais et bien avant, bien avant.
Oh, yeah, long before.
Ah oui, bien avant 73, hein. On est d'accord.
That's always been the quest.
Mais il y a toujours eu cette quête dans l'esprit de l'écrivain américain. Qu'est-ce que l'Amérique?
Everyone knows what England is.
Tout le monde sait ce que c'est que l'Angleterre, quand même.
It's been there for a thousand years.
L'Angleterre existe depuis 1000 ans, voire davantage. C'est pas du tout une quête, cette compréhension de ce qu'est l'Angleterre, ça ne peut pas faire l'objet d'une quête. C'est pas la raison qui m'a poussé à quitter l'Angleterre. En Angleterre, les romanciers sont traités avec beaucoup de suspicion. Et on a tendance à les minimiser
and regard them as irrelevant.
Et les considérer comme peu ou pas pertinents dans la société.
Whereas in America,
alors qu'aux États-Unis,
it was always understood that that writers would help define what this very young country was.
Depuis toujours que les écrivains, les écrivaines vont contribuer à définir la nature de ce qu'est ce nouveau pays, l'Amérique.
Was America just a collection of Italians,
est-ce que les États-Unis, c'est simplement
Germans,
une concaténation d'Italiens, de Juifs, d'Européens de diverses sortes, ou bien est-ce que les États-Unis constituent un pays avec une âme, une identité? Et les Américains ont toujours su que ce sont les écrivains qui permettraient de comprendre ce que sont les États-Unis.
C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que les États-Unis s'étaient autodétruits en élisant Donald Trump, parce que pourtant Donald Trump fait souvent référence au grand mythe américain, à la nation américaine. Évidemment, il parle pas tellement de littérature, mais en tout cas, on a l'impression qu'il pousse, qu'il construit ce mythe américain, qu'il est dans cette tradition-là.
But it's like everything else he touches. It is a vulgar myth.
Oui, mais comme dans tout ce qu'il fait et dit, c'est de la vulgarité. Donc en l'occurrence, ce mythe, c'est la version vulgaire du mythe, c'est superficiel.
And venal.
Et vénal. C'est toujours une histoire de fric avec Trump.
He stands for nothing.
Lui, il ne représente rien, Trump.
He is a PR man.
Trump, qu'est-ce qu'il fait? C'est un commercial, il fait des relations publiques pour les États-Unis.
On va écouter votre deuxième choix musical, Martin Amis, puisque nous avons la chance de passer une heure avec vous. Vous êtes venu avec les titres que vous aimez et vous avez choisi de nous faire écouter Jimi Hendrix, Hey Joe.
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio.
Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun of your hand? Shoot my old lady. You know I kinda mess around with another man. Yeah. I'm going out and shoot my old lady. You know I kinda mess around with another man. And that ain't too cool. Hey Joe, I said, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Shot your woman down, you shot her down. Yes, I did, I shot her. You know I kind of mess around town. Yeah. Yes, I did, I shot my lady. You know I kind of mess around town. And I gave her a gun.
Hey Joe, évidemment, de Jimi Hendrix. C'est le deuxième choix musical de Martin Amis. Nous passons une heure avec lui dans le temps des écrivains pour ce comme un cadeau pour ce dernier Temps des écrivains de la saison, puisque Martin Amis n'a pas de nouveau livre à nous présenter, mais ça ne nous empêche pas de converser avec lui. Pourquoi avoir choisi Jimi Hendrix et Hey Joe?
I'm very undeveloped in my musical taste.
Mes goûts musicaux ne sont pas particulièrement, élaborés, raffinés ou étendus. Étendu, voilà. Mon père m'a donné un kit de disques, disques vinyles.
Et
j'ai essayé de trouver la passion en moi, je ne l'ai pas trouvée. Donc, ce n'est pas la musique classique qui m'a ému. J'aime le jazz et certaines formes de rock, mais c'est tout.
La musique est-elle importante dans votre travail littéraire? Est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle vous porte?
Non, je ne pense pas pouvoir dire ça.
I think it, for writers who try to write musical prose, which I think I do try sometimes.
Je crois faire partie des écrivains qui essayent de produire de la prose musicale. Et on pourrait penser que pour des écrivains essential. Comme cela, la musique est essentielle.
But for instance, Nabokov.
Mais si vous prenez le cas de Nabokov,
found music physically painful.
Nabokov trouvait que la musique était pénible, physiquement pénible. Pas simplement une espèce de petite irritation, non, c'était une douleur physique. Donc il n'y a pas de corrélation entre la musique et la musique du langage que l'on couche sur le papier.
On parlait tout à l'heure, Martin Amis, de la zone d'intérêt, hein, le deuxième livre en fait, que vous avez consacré à la Shoah. Vous êtes un écrivain qui avait la particularité aussi de vous frotter à l'histoire. Vous avez beaucoup écrit sur Staline aussi, deux livres sur Staline. On vous en a beaucoup voulu, pas d'écrire sur Staline, mais par exemple, la zone d'intérêt, votre éditeur historique qui était Gallimard en France, ou votre éditeur historique allemand qui était Karl-Anser Verlag en Allemagne, ont refusé ce livre. Alors qu'il a été salué par Richard Ford, notamment, par Joyce Carol Oates, alors que vous parliez du mal comme absence de pensée, c'est-à-dire exactement comme Hannah Arendt le définissait, est-ce que vous avez compris ces incompréhensions autour de la zone d'intérêt? Comment vous avez vécu, finalement, ces refus?
Well, fair enough, I thought. Publishers...
D'accord, me suis-je dit, les éditeurs refusent les livres quand ils pensent qu'ils ne se vendront pas bien. Je me suis dit que la forme était grossière. Pas de lettres, pas d'appel téléphonique. J'ai été informé par mon agent.
Mais je pense qu'il y a... Did they pretend to have intellectual reasons or literary reasons?
Les raisons étaient-elles intellectuelles?
I don't know.
Littéraires? Je n'en ai aucune idée.
But in fact, it did fine in France when
Kalman Levy published it. A publié La Zone d'intérêt, et le livre a connu un certain succès.
I mean, I'm quite sympathetic to people who say.
Lorsque des gens, particulièrement des Juifs, disent
«
D'abord les Allemands vous volent, ils vous torturent et ensuite ils vous tuent. » Et puis ensuite il faut lire cette histoire-là. Et ça je comprends que ces gens disent « Bon allez, ça suffit maintenant. D'accord, je veux bien. » Mais lorsqu'on est écrivain, et qu'un roman vous vient sous la plume, qu'il vous habite tout à coup, c'est un frisson, c'est une pulsation. Et quand cela vous vient comme cela, il faut avoir de bonnes raisons de ne pas se mettre à écrire.
George Steiner, the great intellectual, Jewish intellectual,
George Steiner,
said to me.
Grand intellectuel juif m'a dit, tu aurais dû l'écrire, mais ne pas le faire publier. Alors j'ai dit, bon, alors à quoi ça sert?
So you know you have to push forward. You have
bon,
to
il faut,
have
il faut être tenace. Il faut avoir confiance en ses instincts.
Est-ce que vous pensez que notre époque a tendance, et peut-être aussi les écrivains, à oublier la liberté finalement? Est-ce qu'on n'est pas dans une époque qui prend un peu trop de précautions, notamment les artistes?
Well, I don't know if they're being overcautious because I don't know what.
Trop prudent, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quelles inspirations les écrivains refusent de suivre en s'auto-censurant. Mais moi, on me considère comme étant courageux ou tête brûlée parfois même. Mais je n'ai pas l'impression de l'être. Moi, j'ai l'impression que
impulse.
Que je suis mes instincts.
And certainly,
en tout état de cause, la critique ne me fait pas peur.
Écrire et peu importe les conséquences. Écrire d'abord.
Absolutely, yeah. Mm. It doesn't occur to me.
Oui, c'est pas du tout, c'est pas une préoccupation pour moi.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot du deuxième avion aussi, salve de critiques aussi. Le deuxième avion était publié en 2010, il regroupait vos essais et deux textes d'ailleurs de fiction à propos du 11 septembre et de l'islamisme. Vous y repreniez les conclusions du prix Nobel de littérature V.S. Naipaul dans Beyond Belief. La religion est une faiblesse, elle empêche de voir, elle empêcherait de voir le monde tel qu'il est réellement. À ce jeu, l'islam arrive premier, disiez-vous. Vous parliez de défaite de notre civilisation. Je vous cite encore Martin Amis. De larges parties de notre opinion publique étaient paralysées par le culte de la diversité culturelle, le relativisme, l'anti-américanisme. Toutes les religions ont fabriqué sans équivoque leurs terroristes, mais nous n'entendons pas parler d'elles, nous entendons parler de l'islam. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis sur l'islam, sur ce terrorisme lié à l'islam?
Avant toute chose, la religion, c'est une histoire de mort. Même les protestants les plus doux abordent la religion. En fait, la religion, c'est une action d'arrière-garde face à le caractère inévitable de la mort. Que disent les religions monothéistes? Il n'y a pas de mort.
Et
comme l'a dit l'ayatollah Khomeini, cette existence qui est la nôtre, c'est en fait l'écume de l'existence. Ce n'est qu'un apprentissage, une sorte de phase d'apprentissage avant d'arriver au paradis. Dans sa forme extrême, l'islamisme devient un culte de la mort. Donc on va instantanément au paradis quand on se fait exploser. Quand on porte une ceinture d'explosifs.
Mais
après le 11 septembre, ce qui a fait l'objet d'une immense exagération, c'est le danger de l'islam. L'islam ne pose pas de danger. Norman Mailer a dit qu'il y a un niveau tolérable de terreur. Quelqu'un monte dans un camion ou une voiture et heurte des dizaines ou de centaines de passants, de piétons. Un terroriste se fait exploser au milieu d'une foule. Mais le clash des civilisations, la guerre des civilisations, ça n'a pas de sens en réalité. Ce n'est pas un conflit entre l'islam et l'Occident, c'est un conflit entre l'Occident et une foule disparate de gangsters et de fanatiques. Combien de porte-avions disposent les islamistes pour conquérir le monde? Comment est-ce qu'ils vont conquérir le monde, Ils n'ont pas de porte-avions.
On a exagéré.
Well, that's what they claim. They, you know,
c'est ce qu'ils disent pourtant. The world way, conquérir le monde, donc le califat mondial, tuer tous les infidèles, les hérétiques. Mais ils n'ont pas la puissance pour faire ça.
Vous disiez en 2003, Martin Amis, à propos du 11 septembre, tant d'intelligence dans ces attentats, tant de brillantes constructions pour finalement empêcher la pensée. Il y a là un vertige, quelque chose d'une comédie tragique, de l'irréalité de certains enchaînements de Shakespeare, de l'erreur se faisant passer pour la vérité, de mort infligée au nom de Dieu. Toutes ces contradictions avaient de quoi nous rendre fous. Le temps est venu où nous ne pourrons plus protéger nos enfants, jamais. La normalité a sombré. Il n'y a pas de billet de retour au monde d'avant le 11 septembre. C'était en 2003, 16 ans après. Est-ce que vous arrivez à penser finalement ce qui s'est passé? Et est-ce que vous pensez maintenant qu'un billet de retour est possible à ce monde d'avant le 11 septembre?
No, I don't think it will be.
Non, je ne pense pas que ça soit possible.
That scar is there. It's like saying,
la plaie est ouverte.
Pearl Harbor.
Est-ce que l'on peut revenir à un monde avant Pearl Harbor? Je ne pense pas non plus. Mais l'attentat n'a pas été perpétré par un État-nation. Et le 11 septembre, c'était le point culminant de l'hostilité.
Nothing like that is going to happen again.
Rien de la sorte ne se répétera. C'est impossible de répéter un événement comme cela quand on prend l'avion. Il faut qu'on subisse ce rituel de sécurité qui n'existait pas jusqu'au 10 septembre 2001. Coup de théâtre, certes, mais impossible de le répéter. Donc, en revanche, donc, vous aurez des attentats, quelqu'un dans une voiture, une camionnette ou autre.
Qu'est-ce que vous demandez à vos livres, Martin Amis? Kafka disait que les livres devaient, comme une hache, briser la mer gelée en nous. On entend là, on vous écoute, on sent une grande liberté de parole, liberté de pensée qui s'exprime énormément, incisivement dans vos romans. Qu'est-ce que vous demandez à vos livres?
Kafka aussi a également dit...
This is solemnly quoted, provingly quoted. I'm sure it was a joke.
Mais en fait, je pense que c'était un canular. Kafka a dit, un livre doit avoir le même poids qu'un décès dans une famille. Kafka, c'est un écrivain drôlissime. Comment penser qu'un livre vous donne la sensation qu'il y a un décès dans la famille? Non, c'était une blague. La littérature est incapable de déprimer l'esprit. Un poème ou un roman peuvent vous déprimer, certes, mais lorsqu'ils sont dénués de talent. Et c'est assez évident, du reste, parce que les grandes tragédies vous donneraient un dénouement où il y aurait dans Le Roi Lear des centaines de cadavres sur scène dans le théâtre. Donc c'est un processus cathartique.
You purge the emotions of pity and
on
terror.
On fait une purge des émissions, des sentiments de terreur et de pitié. On se sent ainsi renforcé.
Dernière question, Martin Amis. Faisons un petit peu de prospective. Dans un monde qui est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où l'image est si importante, est-ce que parfois vous ne doutez pas de la longévité de la littérature, cet art ancien, comme l'appelle Salman Rushdie? Est-ce que vous ne doutez pas de la possible continuité de la littérature, de plus en plus défiée par l'image?
You don't mean of a particular
Vous ne parlez pas d'un roman particulier.
Non, la littérature. Non, le fait d'écrire avec des mots, yeah. avec des histoires. Le fait, même l'objet livre.
I worry that,
je suis préoccupé
it
par
used to be an act of faith
le fait
to think
suivant.
That,
avant, c'était un
that if you were neglected in your lifetime,
acte de foi de penser que lorsque on faisait l'objet d'une certaine négligence, dans
if your
sa vie,
novels were published, but
si vos romans étaient publiés,
no
mais sans grand succès,
then you would, you could hope that,
on pouvait
that in a generation or two,
espérer que dans une ou deux générations, peut-être que
some
votre livre
sink very quickly,
ressortirait du lot.
They don't have longevity.
But, au même titre que certaines réputations exagérées disparaissent vite. Mais je suis un petit peu d'accord avec Salman. Ce projet littéraire ne peut pas survivre indéfiniment. Zadie Smith, jeune romancière, m'a dit
«
Ça durera tant que tu seras vivant, la littérature. » Mais au-delà, je ne pense pas. En tout cas, moi, dans ma propre vie, dit Zadie Smith, je crois que je verrai la mort de la littérature.
Merci beaucoup, Martin Amis. Merci pour avoir passé cette heure avec nous, même si on se quitte avec... C'est assez pessimiste ou lucide, peut-être. C'est terrible ce que vous venez de nous dire.
Well, I'm an anti-pessimist.
Moi, je suis anti-pessimiste.
Hein. Oui, mais I think you must be realistic. Mais
moi, je pense qu'il faut être réaliste face aux forces historiques.
On se quitte, Martin Amis, avec votre dernier choix musical, Michael Lee Firkins, Cactus Cruise. Pourquoi ce choix musical?
It's a guitar technique taken to the point of hysteria.
Une technique de guitare qui frise l'hystérie.
Aucun message littéraire dans cette dernière phrase?
No, just complete animalistic.
Ah non, c'est une libération animale.
Merci beaucoup, Martin Amis. On écoute ça. Et donc, on vous retrouve à la publication. J'espère que vous viendrez nous voir de votre prochain livre, dont le titre est...
Thank you. Inside Story.
Inside Story, voilà. Merci beaucoup, Martin Amis. Merci, Xavier Combes, d'avoir interprété Martin Amis. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Claude Niort à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster cette émission et réécouter à l'infini sur franceculture.fr cette heure avec Martin Amis.